Bonjour, j'espère que vous avez tous et toutes les pages précédentes. Si vous ne les avez pas, vous viendrez tout à l'heure. J'en ai encore refait quelques exemplaires. Vous avez là les pages de la fois passée. Donc, jusqu'ici, il y a un programme des cours, une introduction sur la sagesse, une introduction sur Job, et puis le prologue. Le prologue, vous le trouvez là. 3. 1, 2 et 3. Je suppose que vous vous êtes posé un certain nombre de questions à partir de ce prologue. Normalement, il y a des questions qui se posent. Vous savez que quand on prend un texte d'écriture, on ne le lit pas d'abord comme si c'était passé, comme on a dans la tête quand on le lit, quand on se représente les choses. Les textes sont faits pour nous faire travailler et donc pour nous poser des questions. Alors, la question qu'il faut se poser lorsque nous lisons un livre d'écriture, c'est toujours celle-ci. Pourquoi l'auteur raconte-t-il les choses de telle manière, s'il s'agit d'un récit? S'il s'agit d'autre chose que d'un récit, par exemple des codes de loi ou des choses pareilles, qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle comme cela? Donc il faut toujours nous demander quelle est la symbolique qui se dégage du texte. Mais nous apprenons évidemment avec notre télévision à regarder les choses comme si elles se passaient devant nous. Mais il ne s'agit pas de devant nous, il s'agit de nous-mêmes. Le texte s'adresse à nous. Alors, pourquoi l'auteur raconte-t-il d'abord une histoire de pari, de défi entre Dieu et un personnage bien intentionné d'ailleurs, qui s'appelle le Satan? Pourquoi raconte-t-il les choses comme cela? Et c'est au lecteur qu'il s'adresse, parce que Job n'en sait rien. Job, le personnage de Job, ne sait rien de ce qui se passe dans le ciel. C'est le lecteur qui nous dit que les choses se passent dans notre intelligence et dans notre cœur d'une certaine manière. Il y a Dieu et il y a l'obstacle que nous y mettons. L'obstacle que nous y mettons, bah, c'est une bonne chose. Nous faisons partie du dessein de Dieu, de sa cour. Car il n'existe évidemment pas de cour du ciel avec tous des personnages, anges ou tout ce que vous voulez. Hein, ça n'existe pas sinon dans le texte. Il nous présente les choses de cette manière, comme une tragédie en quelque sorte. Et donc, il s'agit de savoir comment l'homme qui possède des choses, parce qu'il les a reçues toutes depuis sa propre naissance, comment l'homme trouve-t-il en lui-même un obstacle? Un obstacle qui n'est pas mauvais en lui-même, mais qui pose quand même des problèmes. Donc, que fait l'homme quand il reçoit un malheur, quand il est privé de tout ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles questions se pose-t-il? Comment réagit-il? Ça, c'est la question du prologue. Et donc, il se pose une question. Pourquoi le mal? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Donc tout vient du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le Seigneur qui nous présente des cadeaux sur un beau plateau, ou bien qui vient nous les retirer? C'est une manière de s'exprimer, évidemment. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui donne la vie. Et la vie est ce que nous, les hommes, nous en faisons. Et le Seigneur n'intervient pas, mais il intervient dans le rapport, dans la relation essentielle qu'il y a entre lui-même et chaque personne. Et où est cette relation? Mais elle est en nous. La relation, c'est le don de la vie que nous avons reçu gratuitement. Alors, la question, lorsque nous commençons à lire, ah, est-ce pour rien que Job te sert, Seigneur? Ça, c'est l'opposant, le Satan en nous qui nous le dit. Est-ce pour rien, quand on a tout reçu, quand on a tous les biens possibles, quand on est comblé, est-ce pour rien qu'on sert le Seigneur, puisqu'on a tout? Donc c'est au fond la question du mérite. Est-ce qu'on mérite sa vie? Et qu'est-ce que Dieu vient faire dans tout cela? Question extraordinaire, question qui se pose à chacun, à chacune dans ce monde. Et donc, ça nous pose une autre question. Quelle image nous faisons-nous de Dieu? Parce que Dieu est toujours ce que nous en faisons. Il domine tout cela. Il est derrière toutes les images. Mais nous nous heurtons souvent à la représentation. Et la représentation n'est pas exactement la réalité. Une photographie n'est pas la réalité, n'est pas la personne. Elle est une expression, une représentation de la personne, et elle nous dit beaucoup de choses sur elle, mais elle n'est pas la personne. Voilà. Quand on peint une pipe sur une toile, ceci n'est pas une pipe. C'est l'image d'une pipe. Mais, vous voyez, nous confondons très souvent la réalité avec nos images. Eh bien, le livre de Job va être une discussion entre les différentes images que nous avons de Dieu, de nous-mêmes, du mal. Comment ça se passe? Eh bien, ça va se passer à partir du chapitre 3. Vous avez commencé par un monologue, nous l'avons vu la fois passée rapidement, un monologue de Job. Il ne maudit pas Dieu, car maudire Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mettre de côté. C'est ne plus se soucier de lui. Mais il maudit le jour de sa naissance. Et qu'est-ce que ça veut dire, maudire le jour de sa naissance? C'est pourquoi suis-je né? La vie, d'où est-ce que je la tiens? De mes parents, oui. Mais est-ce que mes parents sont les créateurs de la vie? Non. Ils ont reçu une vie qu'ils transmettent. Et donc cette question-là est essentielle. J'ai tout reçu, y compris ma propre existence. C'est pas pour rien que Job commence par sa naissance. Oh, si je n'étais pas né, si je n'existais pas, qu'est-ce qui se passerait? Je ne pourrais même pas me poser la question. Je ne pourrais même pas me demander pourquoi j'existe. Donc si j'existe, c'est que j'ai reçu quelque chose qui me permet, ou quelqu'un qui me permet d'exister. Ce jour-là, cette nuit-là, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Et c'est l'histoire de la genèse du monde et de ma genèse. Ma genèse au monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel je vis? Qu'est-ce que c'est la vie qui nous permet de vivre? Voilà toutes les questions, enfin un certain nombre de questions qui se mettent dans notre esprit au fur et à mesure que nous lisons. Et donc c'est à cela qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qui se passe en nous quand nous lisons ce texte. Est-ce que nous acceptons de vivre? Ou bien est-ce que nous voudrions ne pas avoir vécu, ne pas avoir reçu la vie? C'est Job qui nous invite à y réfléchir. Pourquoi? Et pourquoi, ça peut s'écrire de deux manières. En un mot, pourquoi? Quelle est la cause? Ou pourquoi? Dans quel but? Quelle est la signification profonde? Et ici, pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je né? Pour mourir? Ah, oui. Et pourquoi y a-t-il tant d'inégalités dans le monde? Au fond, pourquoi faudrait-il l'égalité? Et qu'est-ce que c'est que l'égalité? Vous voyez toutes les questions qui montent. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et voilà les questions que Job se pose avec nous, en nous les posant à nous-mêmes. Alors, nous allons avoir, comme je vous ai donné le plan du texte, nous allons avoir trois cycles de débat. Ce sont des questions à débattre en philosophie, en théologie ou simplement dans la vie de tous les jours. Des questions que nous nous posons nécessairement. Du moins si nous acceptons de nous poser des questions, puisque c'est ça qui nous fait vivre. Alors, nous allons voir aujourd'hui le premier cycle du chapitre 4. Au chapitre 14e. Donc, après avoir amorcé la réalité, c'est-à-dire avoir posé la question du pourquoi, dans les deux sens, eh bien, les trois amis de Job, qui sont trois théologiens de l'époque, trois théologiens qui ont leur petit dogme du mérite en tête, on est toujours puni par où l'on a péché. C'est ça qui travaille en eux et qui est devenu comme une sorte de principe théologique. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Si tu souffres en cette vie, c'est que tu as péché en cette vie. Ah, toi-même, vous savez qu'on pose la question à Jésus aussi, encore au temps de Jésus. L'aveugle né, aveugle depuis sa naissance. Bon, il souffre, il ne voit pas. Donc c'est qu'il a péché. Oui, mais il est né aveugle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que ce sont ses parents? Oui, la cause. Jésus dit, à côté de la plaque, toutes ces questions. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Ce n'est pas la bonne question. Mais cet homme est aveugle pour que se manifestent en lui les merveilles de Dieu. Ah ! Donc, il y a quelque chose qui se vit à l'intérieur même de ce malheur qui lui arrive. Il y a un projet. Il y a une chose à vivre. Un projet, ça ne veut pas dire que tout est bon. Non, il y a des défauts. Il y a des défauts dans notre existence. Et il y a même un grand défaut, c'est notre mort. Mais pourquoi vivons-nous comme cela? En raison de quoi? En raison de quoi sommes-nous conscients d'une vie et d'une vie qui finit à un certain moment? Une vie qui meurt. Alors, les trois amis, je vous les ai campés très brièvement la fois passée, les trois amis vont prendre la parole, vont chaque fois répondre à Job. Donc, on a amorcé la pompe avec Job qui a commencé, et alors ils vont se positionner vis-à-vis de Job, mais aussi vis-à-vis les uns des autres. Parce qu'ils entendent tout ce qui se passe. Mais c'est pour le lecteur. C'est le lecteur qui va recevoir un certain nombre de questionnements et qui doit voir lui-même comment il réagit dans son existence propre. Alors vous avez le premier Eliphaz, touche pas mon Dieu. Élie, mon Dieu, c'est de l'or pur, touche pas mon Dieu. Touche pas à l'image que je me fais de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un théologien qui a de l'expérience, c'est un théologien qui a un petit peu charismatique et de temps en temps, il reçoit un songe, une motion spéciale. Donc il a une expérience et une expérience de ce qu'on pense. Il a déjà fait quelques années de professorat. Et il a une expérience personnelle aussi. Tandis que Bildad, c'est plutôt un philosophe, beaucoup plus froid, beaucoup plus rigide. Donc, il ne se pose pas tellement les questions de sentiment, c'est plutôt la question d'un raisonnement. C'est le rationaliste, en quelque sorte. Et puis le troisième essaie un peu de se positionner, mais c'est un jeune, il n'est pas encore activement présent en théologie. Il commence seulement. Et il répète un peu ce qu'il entend dire. Donc, trois manières de percevoir aussi les choses. Alors, je lis simplement. Je lis parce que c'est important de lire ensemble un texte. Je lis et en même temps, je donne quelques petites explications. Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Si on t'adresse la parole, la supporteras-tu ? Mais comment garder le silence ? Vois, tu faisais la leçon à beaucoup d'autres, tu rendais vigueur aux mains débiles, tes propos redressaient l'homme qui chancelle, fortifiaient les genoux qui ploient, et maintenant ?» Tu as aussi raconté des histoires, hein. Tu as aussi été professeur. Mais un professeur qui avait tout ce qu'il lui fallait. Et maintenant. Le « et maintenant » est quelque chose de très important dans la Bible. Et maintenant, ça veut dire « maintenant ». Comment tu réagis ? Ce n'est pas seulement Job, mais c'est nous. Et maintenant. Saint Paul aussi utilise constamment les prophètes, quand il passe à l'homme « et maintenant », c'est important. « Ve'ata » en hébreu. « Ta piété ne te donne-t-elle pas confiance ? Ta vie intègre ne fait-elle pas ton assurance ?» Bon, base-toi sur ce que tu es et ce que tu étais. Tu ne souffrais pas, tu avais tout ce qu'il fallait, maintenant tu souffres et tu te plains. Pourquoi te plains-tu ? Donc il y a une petite ouverture et ils commencent tous par là, ce qu'on appelle amadouer l'auteur, si vous voulez, amadouer celui qui parle. Souviens-toi. Attention, encore un mot important dans le livre de Job. Important comme dans le livre du Deutéronome. Souviens-toi, zchor, en hébreu. Se souvenir, c'est retourner à une expérience. À une expérience profonde, pas seulement cérébrale. Alors, souviens-toi. Quel est l'innocent qui a péri ? Il est clair que si tu souffres, c'est que tu as péché, d'une manière ou d'une autre. Il y a un mal là derrière, mais un mal dont l'homme est l'auteur. Donc, Dieu n'aurait rien à voir dans tout cela, sinon quoi ? Sinon de distribuer les récompenses et les sanctions. Où donc a-t-on vu des justes exterminés ? Je parle d'expérience. Ceux qui labourent l'iniquité et sèment l'affliction, les moissonnent. On n'a que ce qu'on mérite. Sous l'haleine de Dieu, ils périssent. Au souffle de sa colère, ils sont anéantis. les rugissements du lion, ses cris de fauve, comme des crocs, les lionceaux sont brisés, le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Tu n'as que ce que tu mérites. Bon. Ah, attention, pas seulement hein, une sorte de statistique générale, mais j'ai eu aussi une révélation furtive. Mon oreille en aperçut le murmure à l'heure où les rêves s'emparent de l'esprit, quand une torpeur envahit les hommes, un frisson d'épouvante me saisit, et mes os tremblèrent d'effroi. Un souffle glissa sur ma face, hérissa le poil de ma chair. Quelqu'un se dressa. Je ne reconnus pas son visage, mais l'image restait devant mes yeux. Un silence, puis une voix se fit entendre. Un mortel est-il juste devant Dieu, en face de son auteur? Un homme serait-il pur? Là, il y va fort. Donc, devant Dieu, il n'y a pas un homme qui soit juste. Donc, il ne faut pas s'étonner. On n'a pas mérité, mais de toute manière, vous pouvez agir comme vous voulez, vous n'êtes pas juste. C'est non seulement la finitude qui est indiquée par là, mais aussi une sorte de mal qui est en nous. Nous ne sommes pas purs. Tous nos gestes, toutes nos paroles sont ambiguës. Oh, où va-t-il? Mais c'est une révélation personnelle. Donc il y a d'abord hein, le principe, et puis il y a la révélation personnelle. Un mortel est-il juste devant Dieu? Si tu meurs, c'est qu'il y a du péché, voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est évidemment une évocation de la Genèse, du chapitre 3 de la Genèse, bien sûr, de la chute hein, de nos premiers parents. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette chute de nos premiers parents? En face de son auteur, un homme serait-il pur? C'est une question, hein? C'est une question. À ses serviteurs même, Dieu ne fait pas confiance. Saint Jean nous dit aussi, il savait ce qui est dans l'homme, il connaît l'ambiguïté de l'homme, aucune intention droite. Que dire des hôtes de ces maisons d'argile, posées elles-mêmes sur la poussière, il s'agit des hommes bien entendu. On les écrase comme une mythe, un jour suffit à les pulvériser. L'homme n'est vraiment pas grand-chose. À jamais ils disparaissent, les hommes disparaissent, et nul ne les rappelle. Leur piquet de tente est arraché, c'est-à-dire ils n'ont plus de consistance. La tente, hein, c'est comme notre peau, hein, ce qui nous habille. Leur piquet de tente est arraché, et ils meurent faute de sagesse. Donc il y a une sorte de sagesse qui donnerait une certaine immortalité. Oui. Les livres de sagesse parlent de ça. Appel maintenant. Conclusion pratique. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Appel. Est-ce qu'on te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? En vérité, le dépit fait périr l'insensé et l'irritation consume le sceau. Donc la sagesse pourrait donner quelque chose. La sagesse, ce serait quoi? Est-ce que ce serait recevoir sa vie comme un don? Est-ce que recevoir ce qu'on est serait une manière de vivre? Quelle est l'expérience? J'ai vu ceci, moi! Ah oui, voilà son expérience qui vient. L'un d'eux prenait racine. Quand sa demeure fut soudain maudite, c'est le cas de Job, ses fils sont privés de tout appui, accablés à la porte, sans défenseur. Accablés à la porte, c'est là que se fait la palabre. À la porte de la ville, les gens, les anciens, les vieux, les sages, s'assemblent et on discute. Eh bien, c'est ça. Leur moisson nourrit les affamés, car Dieu la leur ôte de la bouche. C'est l'homme qui engendre la peine, comme le vol des aigles recherche l'altitude. C'est clair que c'est l'homme qui s'amène le malheur sur lui, sur lui-même. Alors, bon conseil, pour moi, eh bien, j'aurai recours à Dieu. Alors, si tu veux réparer les choses, eh bien, jette-toi dans le Seigneur et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, si vous prenez les versets du chapitre 5, presque tous les sujets, c'est « il ». Il est l'auteur d'œuvre, il répand la pluie. S'il veut relever les humiliés, pousser les affligés au comble du bonheur, il déjoue les desseins. Il prend des sages au piège. En plein jour, il se heurte aux ténèbres. Il tâtonne à midi, comme dans la nuit. Il arrache de leur gueule l'homme ruiné et le pauvre des mains du violent. Alors le miséreux renaît à l'espoir et l'iniquité doit fermer la bouche. Il. On parle de Dieu à la troisième personne. Il. Mais le « il », c'est l'image que nous avons de lui. Et c'est très difficile d'avoir une seule image de Dieu. Il fait des tas de choses, puisque c'est lui qui donne la vie. Oui, heureux l'homme que Dieu corrige. Ah voilà, la bonne raison. Tu souffres? Ah ben c'est bien. C'est bien. Dieu te corrige. Il t'envoie une épreuve. Dieu t'envoie une épreuve. Pour voir si tu résisteras. Bizarre, hein? Ainsi, sois docile à la leçon de Shaddai. Shaddai, le terme de Shaddai en hébreu, Shad, c'est le saint féminin, le saint qui donne la vie. Shaddai, ce sont mes saints. Shaddaim, c'est un duel pluriel première personne. Shaddaim, Dieu de mes saints. On traduit souvent Dieu très haut, Dieu des mamelons, le Dieu très haut. Et le terme de Shaddai veut dire Dieu très haut, le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui me donne la vie, comme des saints maternels. 6 fois de l'angoisse, il te délivre, et une septième, le mal t'épargnera. 6 jours de la semaine, et le septième, le jour du Seigneur. Tout cela, nous l'avons observé, je suis à la fin du chapitre 5, tout cela, nous l'avons observé, c'est la vérité. C'est évident que si je me représente Dieu de cette manière, c'est vrai, hein? C'est ce que nous pensons tous. À toi d'écouter et d'en faire ton profit. Donc voilà, monsieur le théologien, qui a une expérience, qui a aussi des songes qui lui viennent de Dieu, qui a aussi avalé l'Esprit Saint, dirions-nous aujourd'hui. Et voilà, c'est la vérité. C'est la vérité telle qu'elle est enseignée. Si tu souffres, c'est que tu as péché en cette vie. Job prit la parole. Il faut quand même remettre les choses un peu droites. Ah, si l'on pouvait peser mon affliction. Mettre sur une balance tous mes maux ensemble. Mais c'est plus lourd que le sable des mers.
Aussi mes propos s'égarent, les flèches de Shaddai en moi sont plantées, mon humeur boit leur venin, et les terreurs de Dieu sont en ligne contre moi. Voit-on braire un onagre auprès de l'herbe tendre, un bœuf mugir à portée du fourrage? Qu'est-ce que Job veut dire?
Ben, c'est facile de parler, hein? Mais c'est moi qui souffre. Ah. Et la souffrance est autre chose que la parole. La souffrance fait partie de la réalité expérimentée, de l'expérience profonde. Eh bien, pour moi, c'est Dieu qui m'en veut. Il m'en veut. Gratuitement, arbitrairement.
Un aliment fade se mange-t-il sans sel? Le blanc de l'œuf a-t-il quelque saveur? Or, ce que refuse mon appétit, c'est là ma nourriture de malade.
Donc, c'est parce que ça va mal que je crie. C'est parce qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part.
Oh, que se réalise donc ma prière, que Dieu réponde à mon attente, que lui consente à m'écraser, qu'il dégage sa main et me supprime. J'aurai du moins cette consolation, ce sursaut de joie et de cruelles souffrances de n'avoir pas renié les décrets du Satan, du Seigneur, du Saint.
Oui, c'est vrai, il faudrait que je meure. Que je meure avant de blasphémer.
Ai-je donc assez de force pour attendre, voué à une fin certaine, à quoi bon vivre encore,
puisque de toute manière je dois mourir. Mais il faudrait que je meure avant de blasphémer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est-il vraiment tellement important pour moi?
Où est-il? Puis-je trouver en moi quelque appui? Et tout secours n'a-t-il pas fui loin de moi? Mes frères ont été décevants comme un torrent, comme le lit d'un ruisseau passager.
Je n'ai plus rien. Je suis enfermé dans ma souffrance. Car la souffrance enferme. Et je n'ai plus l'expérience de rien d'autre. Il y a souvent nous-mêmes ou d'autres personnes qui nous disent « Je ne sais plus prier. Dieu est un lointain, est un il quelque part.
Tel vous êtes pour moi à cette heure.
Vous ne m'êtes d'aucun secours.
À ma vue, saisie d'effroi, vous vous dérobez. Vous ai-je donc dit, faites-moi tel don, offrez-moi tel présent pour moi sur vos biens, arrachez-moi à l'étreinte d'un ennemi, délivrez-moi des mains d'un oppresseur, instruisez-moi, alors je me tairai. Montrez-moi en quoi j'ai pu errer.
Je veux bien écouter ce que vous me dites, mais dites-moi en quoi j'ai fauté. Job se rend compte qu'il est, nous disons en français, innocent. C'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement fauté lui-même. Il n'a pas méprisé Dieu. Il ne l'a pas maudit. Il ne l'a pas refusé. Il est là.
Allons, je vous en prie,
regardez-moi. Regardez celui qui souffre. Mais il y a une manière de regarder.
En face, je ne mentirai point.
Revenez.
Ne soyez pas injuste. Revenez, car mon droit reste en cause. Y a-t-il de la fausseté sur mes lèvres? Mon palais ne sait-il plus discerner l'infortune? Non, je n'ai pas péché. C'est bien ça qu'il veut dire. Je ne suis pas coupable. Mais qu'est-ce que c'est que cette culpabilité? Oh, peut-être bien qu'il a fauté de telle ou telle manière, mais il n'a pas renié Dieu. Pour Job, c'est ça. Être innocent, c'est ne pas renier Dieu. Mais Dieu pose quand même une question. Il est arbitraire. Ce n'est pas parce que j'ai fauté, j'ai fait du mal d'une certaine manière, ce n'est pas pour cela que je souffre. Mais gratuitement, Dieu est arbitraire. Il me fait souffrir alors qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi? Et alors, au chapitre 7, qu'est-ce que c'est que la vie d'un homme sur terre? C'est tellement peu de choses. N'est-ce pas un service militaire, que l'homme fait sur la terre? N'y mène-t-il pas la vie d'un mercenaire? Tel l'esclave soupirait après l'ombre, ou l'ouvrier tendu vers son salaire. J'ai en partage des mois de déception, à mon compte des nuits de souffrance, étendu sur ma couche, je me dis, à quand le jour? Sitôt levé, hein, comme le soir tarde. Nous avons tous connu ça, hein, à la clinique. Et mon esprit obsédé divague jusqu'au crépuscule. On ne sait plus rien faire, on est tout le temps face à son mal. Vermine et croûte terreuse couvrent ma chair, ma peau se gerce et suppure, mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir. Souviens-toi. Voilà que maintenant Job s'adresse à Dieu. Il parlait de Dieu, maintenant il s'adresse à Dieu. Souviens-toi. Et il sera le seul de ses, devant ses quatre amis, le seul à parler à Dieu en deuxième personne. Souviens-toi. Mais quand on dit souviens-toi à Dieu, c'est qu'on a déjà vécu une expérience avec lui. Quand on dit à quelqu'un « Souviens-toi », c'est qu'on a vécu ensemble quelque chose. « Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. » Ah, tu aurais l'expérience de ma vie qui n'est qu'un souffle. « Que mes yeux ne reverront pas le bonheur, invisible désormais pour tout regard, tes yeux seront sur moi. » Et j'aurais disparu. Donc tu as quelque chose à voir avec moi, parce que tu m'as façonné. Mais regarde-moi bien, parce que je vais mourir. Suis-je la mer, moi, ou le monstre marin, pour me faire garder à vue? Si je dis, mon lit me soulagera, ma couche allégera mes souffrances, alors tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Tu m'épouvantes. Il s'agit de Dieu cette fois-ci. Ah, je voudrais être étranglé, la mort plutôt que mes douleurs. Je me consume, je ne vivrai pas toujours. Aussi laisse-moi, mes jours ne sont qu'un souffle. C'est Dieu qui m'obsède. C'est Dieu qui m'en veut. Alors, ce verset 17, qu'est-ce donc que l'homme pour en faire si grand cas, pour fixer sur lui ton attention? C'est le psaume 139. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu aies de soucis. Pour l'inspecter chaque matin, pour le scruter à tout instant. Cesseras-tu enfin de me regarder le temps que j'avale ma salive? c'est que Dieu est insupportable. Il est tout le temps là. Je ne peux pas l'éviter. Et même quand je dors, il est présent. Si j'ai péché, que t'ai-je fait à toi ? Ah, voilà la question. Si j'ai péché, que t'ai-je fait à toi ? L'observateur attentif de l'homme. Pourquoi m'as-tu pris pour cible ? Pourquoi te suis-je à charge ? Ne peux-tu tolérer mon offense ? Passer sur ma faute ? Car bientôt je serai couché en terre, tu me chercherais, et je ne serai plus. C'est magnifique, hein ? Nous voudrions nous passer de Dieu, et nous ne pouvons pas nous passer de lui. Et parce que Dieu m'a fait, j'existe, et il existe en moi. Alors, le deuxième ami prend la parole. Bildad de Shua prit la parole et dit, « Cesseras-tu de parler de la sorte, de tenir des propos semblables à un grand vent ?» Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Tu délires. Pour toi, si tu es irréprochable et droit, recherche Dieu, implore Shaddai. Dès maintenant, il te rendra sa faveur et restaurera la maison d'un juste. C'est tout simple. Convertis-toi. Tu as péché, tu ne veux pas l'admettre, mais convertis-toi. Dis que tu as péché, avoue-le. C'est quand même facile, hein ? Oui. Interroge la génération passée, et alors on va faire un petit effort de statistique. Hein. Interroge la génération passée, médite sur l'expérience acquise par ses pères. Nous, nés d'hier, nous ne savons rien. Notre vie sur terre passe comme une ombre. Mais eux, ils t'instruiront, te parleront, et leur pensée livrera ses sentences. Et tu dis. C'est un petit cours d'initiation à tes pères. Retrouve un peu ta tradition. Bon. Le papyrus. Pousse-t-il hors des marais ? Privé d'eau, le jonc peut-il croître ? Même si on l'arrache dans sa fraîcheur, avant toute autre herbe, il se dessèche. Tel est le sort de ceux qui oublient Dieu. Ainsi périt l'espoir de l'impie. Mais il vient justement d'entendre Job s'adresser à Dieu. Et il lui dit qu'il l'oublie. Mais il oublie quel Dieu ? Vous voyez, on parle tous de Dieu, mais chacun a sa représentation de Dieu. Il a son expérience de Dieu. Et bien sûr, hein, dans le langage, on peut parler de Dieu. Mais Dieu, c'est une expérience. C'est une relation. Dieu n'est pas comme cela, hein, une réalité en dehors, puisque ma vie est de Dieu. Et c'est justement, il termine par... Si tu te convertis au Seigneur, si vraiment tu reviens vers lui, mais il est en plein dedans, si tu reviens vers lui, il te donnera sa faveur, il va changer les choses. C'est souvent l'idée que nous avons, que Dieu est un distributeur automatique. Nous mettons 1 euro et nous avons ce que nous désirions. Non, 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 la prière n'est pas cela. Je ne prie pas pour être exaucé dans ma réalité profonde. Je prie pour vivre une relation. C'est ça la prière. Je peux bien sûr dire mes demandes, me plaindre.
Oui.
Mais la prière, c'est autre chose. Et Job nous met déjà sur la piste. Souviens-toi. Dire à Dieu, souviens-toi. Et Job va embrayer là-dessus. Job, au chapitre 9e, nous dit « En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. » J'ai suivi aussi mes petits cours de théologie. « L'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu ?» Dieu est Dieu, quoi. Hein? Bon. « Quiconque s'avise de discuter avec lui ne trouve pas à répondre une fois sur mille. Son cœur est sage, sa force est grande. » Qui donc lui tiendrait tête impunément? Et alors lui-même, il répond, comme Bildad lui avait dit, il, Dieu, voilà l'image que j'en ai, eh bien, il donne aussi son image de Dieu. Il déplace les montagnes à leur insu, il les renverse dans sa colère, il ébranle la terre de son site, fait vaciller ses colonnes. À sa défense, le soleil ne se lève pas, il met un sceau sur les étoiles, lui seul a déployé les cieux, et foulé les hauteurs de la mer. Il a fait l'ours et Orion, les Pléiades, les chambres du sud, les étoiles donc, hein. Il est l'auteur d'œuvres grandioses et insondables, de merveilles qu'on ne peut compter. S'il passe sur moi, je ne le vois pas. Il glisse, imperceptible. S'il ravit une proie, qui l'en empêchera? Et qui osera lui dire, que fais-tu? Dieu ne revient pas de sa colère, sous lui restent prostrés les satellites de Rahab. Rahab, c'est deux choses, Rahab. Rahab, c'est un monstre, le monstre du chaos. Mais Rahab, c'est aussi une dame qui a ouvert la porte de la Terre Sainte à Josué. Rahab, ça veut dire le large, l'ample, le gros. Dieu est le créateur. Oh, important cela. Dieu est mon créateur, le créateur de ma vie. Ça, c'est l'expérience que je peux en avoir. Mais cette expérience, c'est une expérience minime devant la réalité qui m'entoure et qui est aussi l'œuvre de Dieu. Et moi, je voudrais plaider ma cause. Je choisirais mes arguments contre lui. Même si j'avais raison, à quoi bon me défendre? Car c'est lui mon juge qu'il faudrait supplier. La difficulté avec Dieu, c'est qu'il est notre créateur et notre juge. Qu'est-ce que c'est qu'un juge? C'est celui qui rétribue. Créateur, rétributeur. C'est vrai que c'est essentiel. Si j'ai créé, je suis responsable de ce que je crée. Donc je vais être rétributeur, je vais voir si ce que je crée sert bien comme selon mon intention. Lui qui m'écrase pour un cheveu, qui multiplie sans raison mes blessures et ne me laisse même pas reprendre souffle tant il m'abreuve d'amertume. Recourir à la force, il l'emporte en vigueur. Au tribunal, mais qui donc l'assignera? Si je pense avoir raison, sa bouche peut me condamner, si je m'estime innocent, me déclarer pervers. Dieu est arbitraire. Il n'est soumis à rien, donc il est la justice même. Mais suis-je innocent? Je ne le sais plus moi-même, et je fais fi de l'existence, car c'est tout un. Et j'ose dire, il fait périr de même juste et coupable. Ah ! Juste ou coupable, rien à faire, tous périssent. Punition ? Ben non !
C'est Dieu qui le décide. Rien à faire devant un Dieu pareil.
Car c'est tout un, et j'ose dire, il fait périr de même juste et coupable. Quand un fléau mortel s'abat soudain, il se rit de la détresse des innocents.
Dieu est insensible.
Dans un pays livré au pouvoir d'un méchant, il met un voile sur les yeux des juges.
Mais il ne sait peut-être pas encore, Job, que dans la Bible, le jugement est toujours un jugement de salut. Dieu ne juge que pour sauver. Il ne sait pas faire autrement. Dieu ne peut pas condamner. Car condamner l'homme qui est mortel, ce serait se condamner lui-même.
Mes jours passent, plus rapide qu'un coureur, il s'enfuit loin du bonheur. Je suis toujours là avec ma souffrance. Puisque la vie m'est en dégoût, chapitre 10, je veux donner libre cours à ma plainte, épancher l'amertume de mon âme. Je dirai à Dieu, voilà ce que je vais lui dire.
Je dirai à mon père, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Nous avons vu ça hier, dans la parabole de Jésus. Un père avait deux fils. « Je dirai à Dieu, ne me condamne pas. Indique-moi pourquoi tu me prends à partie. Est-ce bien pour toi de me faire violence, d'avilir l'œuvre de tes mains ?»
Tu m'as créé quand même, t'es responsable, et de favoriser les desseins des méchants.
Et voilà de nouveau que Job passe à la deuxième personne. Tu.
As-tu des yeux de chair, et vois-tu à la façon des hommes? Ton existence est-elle celle des mortels? Tes années passent? Tes années passent-elles comme leur jour? Toi qui recherches mes fautes et fais une enquête sur mon péché, tu sais bien que je suis innocent.
Tu sais bien que je suis innocent. Il fait appel à la conscience de Dieu, que Dieu ne peut pas mêler la justice et l'innocence. Et que nul ne me ravira de tes mains. Tes mains m'ont façonné, formé, puis te ravisant, tu voudrais me détruire.
Ah, là il va fort. Il atteint Dieu. Il atteint Dieu qui l'a façonné. Dans le ventre de ma mère, c'est toi qui me façonnais. C'est toi qui m'as créé. Tes mains m'ont façonné, formé, puis te ravisant, tu voudrais me détruire.
Et il rappelle cette image de Dieu qui m'a façonné dans le sein maternel, comme si j'avais encore sur moi, sur mon corps, je sentais les mains de celui qui me façonne.
Souviens-toi, encore une fois, souviens-toi, tu m'as fait qu'on m'en pétrit l'argile, et il reprend le chapitre 2 de l'Exode, de la Genèse, bien sûr. Souviens-toi, tu m'as fait qu'on m'en pétrit l'argile, et tu me renverrais à la poussière. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, et fait cailler comme du laitage, vêtu de peau et de chair, tissé en os et en air? Puis, tu m'as gratifié de la vie. Et tu veillais avec sollicitude sur mon souffle.
Il fait appel à cette réalité maternelle de Dieu.
Mais tu gardais une arrière-pensée, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Je sais que tu te réservais de me surveiller si je pêche et de ne passer aucune faute. Suis-je coupable ? Malheur à moi. Suis-je innocent ? Je n'ose lever la tête, moi saturé de honte, ivre de peine, et si je me redresse tel un lion, tu me prends en chasse, tu répètes contre moi tes exploits. Tu renouvelles tes attaques, ta fureur sur moi redouble, tes troupes fraîches m'assaillent sans répit. C'est gratuitement que tu m'en veux. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir du sein ? Il revient à son chapitre 3. J'aurais péri alors, nul œil ne m'aurait vu. Je serais comme n'ayant pas été. Du ventre, on m'aurait porté à la tombe. Et ils durent si peu les jours de mon existence. Cesse donc de me fixer pour me permettre un peu de joie. Avant que je ne m'en aille sans retour, dans la région des ténèbres et de l'ombre épaisse, où règne l'obscurité et le désordre, où la clarté même ressemble à la nuit sombre. Voilà ce merveilleux passage où Job en veut à Dieu, qui lui en veut. Quelle est cette collision frontale avec Dieu ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et alors, vous avez le jeune Sophar qui arrive un peu en retard et qui va répéter les mêmes choses. Et puis, je n'ai plus le temps, sinon d'évoquer simplement ce qui se passe. Vous avez une longue réponse de Job. Chapitre 12, 13 et 14. Et en trois points, il va répondre. L'expérience de Job et des hommes s'inscrit en faux contre la doctrine de la rétribution. Il y a des justes qui sont malheureux et des impies qui triomphent. Se moquant des clichés répétés par ses amis, il leur conseille de se pencher sur les merveilles de la création. Bêtes, oiseaux, humains, Job lui-même apporte ainsi un démenti aux statisticiens. On est toujours puni par où l'on a péché ? Pas nécessairement, dit Job. Dieu agit de manière absolument gratuite, donc il peut en vouloir, sans aucune raison. Mais, deuxième point, défier Dieu comme il est en train de le faire, c'est grave. Mais Job accepte le défi. Il y est réduit par ses amis qui ne donnent que des raisons extérieures, des fabricants de mensonges, comme il dit lui-même, de vrais charlatans. Il veut plaider sa cause. Mais face à Dieu, c'est vraiment dans cette ouverture, de cet accueil de la véritable présence de Dieu, au-delà des représentations, qui peut lui rendre vie. Car cette vie dépend de Dieu. Et il faut découvrir jusqu'à quel point l'homme se trouve face à cette présence de Dieu qui lui donne vie, qui lui donne de s'y opposer. Je puis m'opposer à Dieu parce que je vis et que j'ai reçu ma vie de lui. Et alors il commence par dépeindre, au chapitre 14e surtout, le destin de l'homme né de la femme jeté au monde. Et il imagine des comparaisons pour l'exprimer. La mort est la fin dernière et Dieu aurait-il quelque part la nostalgie de l'homme? Est-ce que Dieu serait nostalgique? Il a créé l'homme. Il en veut à l'homme. Il lui fait du tort. Qu'est-ce que ça veut dire? Créer un être capable de souffrir, c'est une responsabilité terrible. Et justement, ce que Job fait, c'est de rendre Dieu vraiment responsable du don de la vie, pardon, du don de la vie et donc du malheur de l'homme. Alors, vous voyez, face à ce que disaient ses amis, c'est parce que tu as péché que tu souffres. Il a dépassé justement cette raison. Non. C'est parce que Dieu est le Créateur qu'il permet à l'homme de souffrir. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la souffrance est un bien? Non pas! Non pas! Mais alors, qu'est-ce que Dieu peut faire avec la souffrance de l'homme? Voilà la question qui s'approfondit. Qui est Dieu? Pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme, que tu en aies le souci. Vous voyez qu'on approfondit la question, mais il y a aussi toute une théologie de la rétribution temporelle qui saute. Il faut aller plus loin. Bon, nous en resterons là. Et la fois prochaine, eh bien, nous prendrons le deuxième cycle.